Aujourd'hui, on va parler du château 404. Alors, le château 404, c'est quoi ? C'est un lieu d'art et de création libre, monté par une petite équipe en 2017. Un lieu insolite dans un vieux hangar situé au 8 rue Périgot à Metz. Toujours en travaux, mais qui organise déjà moult événements. On va en reparler de ça. Et ils ont récemment eu leur petite dose de polémique, mais ça aussi, on va en reparler. Petite introduction donc, mais les mieux placés pour présenter ce lieu... ce sont mes invités d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde.
Salut.
Alors, autour de la table, j'ai Igor. Igor, tu es... t'as quoi comme...
Bon, nous tous pareils au château, hein, de toute façon.
C'est... Ouais. Ouais, d'accord. C'est... Ben, Igor, alors Bertrand et ouais. Lily.
Oui, c'est ça.
Alors, petite première question d'introduction, tout simplement. L'un de vous deux pourrait me présenter un petit peu ce que c'est que le studio 404. Même si je l'ai très bien fait.
Alors, le château 404, c'est un ensemble de deux entités. Une première du coworking, donc des ateliers. Il y a des résidents qui travaillent tous les jours, tout au long de l'année. Donc, il y a de l'atelier sérigraphie en premier. Il y a tout ce qui est production graphique. Et puis, on a aussi tout ce qui est bois, métal, enfin voilà, avec l'atelier du crâne chauve. Qui réalise, ça va de la porte à de la sculpture d'art. Et puis on a aussi différents collectifs qui ont leur bureau ou du stockage, enfin voilà, des compagnies de théâtre qui viennent. Et il y a un local de répétition aussi, voilà, géré par le Pigeon Vert, qui permet à plusieurs groupes, une bonne dizaine de groupes, de pouvoir composer, répéter. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est l'événementiel, donc qui est géré par les chiens de la classe. Voilà, qui est l'asso qui organise. Et c'est un lieu de production et de diffusion culturelle en tout genre. Quoi.
Donc maintenant, c'est bouillonnant de savoir-faire et tout, mais j'imagine que ça a dû partir de quelque chose. C'est parti de quoi le studio 404 le château 404, pardon.
Ben, ça part surtout d'un besoin. Je pense qu'à Metz, il n'y avait plus vraiment de lieu où on peut s'exprimer de façon artistique. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire dans son appartement, qu'on a besoin d'être nombreux. Et ça a toujours été comme ça au niveau de l'art et de la culture. Le gros problème qui se pose, c'est qu'on a des politiques qui nous mettent des cultures un petit peu lissées. On ne se retrouve pas là-dedans. Et comme beaucoup de gens, la preuve, c'est le public qu'on a pu brasser. On en est à un point où, en France, quand on veut faire des choses, on nous... lit les points. C'est plutôt dommage, surtout qu'on n'a jamais fait tort à personne, on a juste voulu prendre un petit hangar, se retrouver entre potes. Il y en a qui font divers arts, on a Chloé Burt qui fait des super dessins, on a Pony Print qui font les meilleurs t-shirts de tout Metz, et puis en fait on a besoin d'un lieu tout simplement, quoi. Et les lieux qui sont payés par les grosses subventions ou les décisions de la mairie, ça ne nous correspond pas, en fait. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'est la population française. On a une époque où les gens travaillent et n'arrivent plus à s'éclater. Là, on propose un lieu où tout n'est pas cher. On est toujours là sur le nombre de gratuités qu'on a pu faire, le nombre de choses qu'on peut être dans l'échange, l'entraide, quoi, en fait, juste être des êtres humains, quoi,
qui veulent rigoler, faire du fun, vraiment, parce que c'est ça, quoi. C'est pouvoir monter des projets avec des personnes qui sont motivées, qui proposent, quelque chose de concret, d'abouti, et qui peut pas forcément se faire ailleurs, parce que les moyens à sortir pour organiser et faire une soirée, parfois peuvent être conséquents dans certains lieux, et donc là, c'est un petit peu donner la chance un petit peu à tout le monde, quoi. Donc au début, ça s'est fait par les chiens de la classe qui sont au final, ça a été un petit noyau dur, on va dire, et puis ça s'est ouvert parce que voyant les choses qui arrivent et puis le nombre de concerts qui se brassent, et ben il y a d'autres assos qui ont commencé à rejoindre un petit peu le projet et puis à vouloir organiser aussi et à diffuser leur programmation, leurs concerts. Et puis plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, c'est vraiment je dirais un échange et le fait de dire tout seul on peut pas faire, donc on veut faire. Et moi je rajouterais juste à ce que tu as dit que à un moment quand on veut essayer de monter des choses et de les faire bien, parfois c'est toujours mieux d'avoir un lieu à soi pour avoir cette liberté de création et cette liberté de produire des choses, voilà,
sans besoin de résultats.
Ouais,
c'est surtout ça, c'est qu'en fait on fait pas les choses pour les quantifier ou pour faire de l'argent dessus. On veut juste faire ce qui nous plaît, tout simplement, à notre petite échelle, même si ça correspond pas forcément à ce qui est attendu du grand public. Il nous faut des lieux pour ça, et c'est pour ça qu'on...
Après, on a toujours besoin de la rentabilité des choses.
C'est
parce
ça, j'allais poser la question, mais comment au final
on n'est pas du tout accompagné, en fait. Donc ça veut dire qu'on est nous avec nous. Donc il y a un loyer à payer tous les mois, il y a des factures à payer tous les mois. Ces factures ont toujours été payées.
Ça repose sur beaucoup de bénévolat aussi.
Ouais.
Du coup, c'est un petit peu à la fois ce qui nous a rendu plus forts, parce qu'on a tous travaillé ensemble et quelque part, c'était génial comme ça. Après, forcément, il y a beaucoup de fatigue derrière tout ça, mais voilà.
Surtout quand on voit qu'on essaye, on nous laisse... quand ça plaît, on nous laisse faire, et quand les élections arrivent, on doit partir. On ne rentre pas dans le jeu politique.
Non, on va revenir là-dessus. Moi, juste une petite question. Je suis peut-être un petit peu trop pragmatique à votre goût, mais... Comment vous faites pour financer ce lieu?
C'est de l'autofinancement. On a toujours tout géré avec les rentrées d'argent qu'on faisait et le bénévolat. Il n'y a jamais eu de profit fait. Et le but était vraiment de tenir tout seul. Parce qu'on sait très bien que si on commence à accepter des subventions, que ça soit de la mairie ou européenne, tout ça, et ben quand on donne de l'argent, on te demande toujours quelque chose en retour. Et nous, on veut cette liberté de créativité. Pour pouvoir s'exprimer, en fait. Et donc on a essayé pendant 3 ans, ça a tenu. Alors là, c'est vrai qu'on serait des menteurs de dire qu'on ne tourne pas vers la mairie, parce qu'elle a débloqué un tout petit peu d'argent pour nous. À l'échelle de ce qu'elle peut investir dans la culture, c'est que dalle. Ça ne fait pas tenir un lieu.
C'est 0,
mais voilà. Ils l'ont fait, c'est sympa. On ne va pas cracher sur l'argent qu'on nous donne. Ça supporte la cause et nous, le but...
Elle est arrivée la semaine dernière. Voilà.
Voilà, donc 3 ans en autofinancement. Et depuis la semaine dernière, où on est fermé, on a eu une subvention.
Voilà.
Donc voilà, et on est dans un monde absurde.
Il y a les loyers, toute la partie activité
des artistes
et des ateliers. Ça, c'est une partie du financement. Et du coup, il y a l'événementiel qui est la deuxième partie du financement. Donc sans événementiel, nous, on ne peut pas... on peut pas continuer, sachant que l'ensemble des investissements qu'on a pu faire et qu'on a dû faire en termes de sécurité, en termes de bâti, en termes de tout ça, on l'a fait que sur notre propre effort avec justement nos soirées. Donc si on n'organise pas de soirée, on ne peut pas continuer à faire cet investissement-là.
Et avec des gens qui ont vraiment mis la main à la pâte aussi, on a plein de gens dans notre équipe qui sont, qui ont fait des travaux, qui ont fait tout eux-mêmes aussi.
On a tout bricolé tout nous-mêmes, c'est ça. C'est notre petit château, quoi.
Des gens qui ont vraiment bossé sur le truc à fond, donc voilà quoi.
Et si jamais ça intéresse un de nos auditeurs, comment on vous rejoint?
Il suffit de venir,
de se présenter, de dire bonjour.
C'est assez marrant comme question, parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivé dans l'association, je connaissais quasiment personne. J'étais là pour filer un coup de main, porter une poutre.
Ouais.
Et puis au final, on a rencontré plein de copains. Pour être bénévole au Château 404, il suffit juste de le demander.
Ouais, voilà.
Et on le met sur une discussion. Et puis, il y a énormément de gens qui ont fait bénévole à Metz, de toute façon, sur ces 3 ans, qui sont peut-être passés qu'une fois, mais qui ont servi la cause. Et j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est bien la preuve qu'il y a un besoin. Si les gens sont prêts à travailler gratuitement pour quelque chose, c'est bien qu'il y a un besoin.
Bien sûr. Mais on en a eu des tas, même de demandes de gens qui se demandaient comment devenir bénévole. Moi, par exemple...
Vous avez une cotisation à payer?
Alors, 3 euros.
Comme les gens qui viennent, qui viennent à nos événements.
Parce que c'est le principe associatif, à savoir qu'on a une buvette, tout est déclaré, et donc dans l'associatif, il faut être membre de l'association pour pouvoir bénéficier de la buvette, donc c'est 3 euros l'adhésion à l'année. Voilà.
D'accord. Bon, on va maintenant revenir sur cette fameuse petite polémique qui a secoué le château 404. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus moi-même, je vais vous laisser en parler. Apparemment, c'est partie d'un article dans le Républicain Lorrain.
Bon, ça, c'est la polémique qui veut ça. Je pense qu'on est en pleine période d'élection et il serait stupide de penser que ça peut être juste à cause du soutien à une cause, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Nous, comme on disait...
On organisait un concert, c'est ça. On n'organisait pas une manifestation politique, un meeting, ce genre de choses.
C'est ça, on ne sait jamais. C'est leur monde à eux et on veut pas se mélanger à ça parce qu'on sait très bien que ça pervertit les gens. Et nous, ça ne nous intéresse pas, en fait.
Ouais.
Nous, tout ce qu'on veut, c'est s'exprimer. Et je pense qu'en France, le pays des... Putain, pays des droits de l'homme quand même. Si on n'arrive pas à faire ça chez nous, il se passe plus rien ailleurs, quoi. Je veux dire, on a un modèle d'exemplarité pour pas mal de pays dans le monde. Il serait peut-être le temps que les politiciens regardent un petit peu ce qui se passe en France et se disent, bah merde, il y a un souci, quoi. Et le problème, c'est que nous, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il y a un souci, on n'a pas les réponses à ce problème. Mais nous, ce qu'on propose, c'est juste un espace de liberté pour les gens, pour que quand ils sortent du boulot, s'ils ont une vie de merde parce qu'ils n'ont plus de thunes à la fin du mois, ils peuvent venir au château. S'ils n'ont pas de blé, ils trouveront toujours un gars qui va lui avancer une bière ou un mec de l'équipe qui va lui offrir.
C'est la bière est à 2 euros au château 400.
Voilà, c'est ça.
On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
C'est vrai.
Mais on peut prendre des softs aussi. Et on fait aussi de la nourriture.
Les softs sont à 2 euros aussi.
D'ailleurs,
il y en a pour tout le monde.
Petit clin d'œil sur les softs. On travaille aussi du coup avec des producteurs locaux. Enfin, il n'y a pas de Coca-Cola au château 404. C'est du Lorraine Cola. C'est de la limonade Lorraine.
On essaie déjà de marcher avec les gens qui nous entourent parce qu'on sait très bien que dès qu'on passe par des interlocuteurs, il y a des décisions.
On est en circuit court. Les brasseurs, c'est les brasseurs lorrains, pareil. Enfin voilà, on essaye vraiment de respecter. Respecter là-dessus pour justement faire fonctionner un petit peu toute l'économie locale, quoi, parce qu'on est là-dedans. Hein.
Voilà. Oui, ouais.
L'économie et la culture locale.
Donc. L'économie et la culture locale, ouais. Donc, après, pour revenir sur l'article, ouais, c'est un premier article qui est paru en mai, en fait, 2019, et qui était sur un événement, Messis Wunderbar, l'amitié franco-allemande, voilà, et cet article-là a engendré une commission de sécurité qui est passée, parce que c'était un événement un mercredi après-midi, donc des concerts.
Il y avait des
moitié
enfants,
artistes, ouais,
des
moitié artistes classe, allemands, donc, moitié artiste français. Pour le public, c'était pareil. Il y a eu un quart d'allemand qui est venu, d'enfants, et voilà. Donc des ateliers graphiques, sérigraphie, tout ça, des concerts. Et puis, du graffiti, et pas mal de choses.
Les gamins se sont éclatés.
Et donc, en fait,
c'est que à l'échelle des gens qui sont venus, c'était une réussite totale, quoi. On a toujours fait attention à la sécurité, on n'a jamais voulu mettre les gens en danger, on n'est pas stupide. Et on sait très bien que s'il nous arrivait le moindre pépin, on serait fermé. Et en 3 ans, je veux dire, on a fait les choses bien.
Je sais garantir pas si on a la fait sécurité bien, des personnes, ouais, oui.
Le gros problème, comme l'a dit Polo sur Mirabel Télé, le gros problème, c'est aussi ces normes qui sont intenables et qui sont faites justement pour verrouiller ces lieux-là. On nous sort des normes que ces gens, ces petits gens comme on est, nous on est des petits gens, on est rien à leurs yeux. Et ben nous, on peut plus rien faire à cause de ces normes. Ils savent très bien qu'il va falloir être un financier ou avoir un support ou être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais à notre échelle, on peut plus rien faire. Voilà, c'est ça.
C'est des normes de sécurité dont tu parles.
Oui, ouais. Mais il faut voir. On a vraiment travaillé le truc. Il y a eu des cabinets d'expertise qui sont venus. On a travaillé avec un architecte. On fait même attention à ce qu'on dit grâce à un avocat qui nous défend gratuitement. On essaie de faire les choses bien, mais elles sont verrouillées, clairement verrouillées. Et la preuve.
Mais concrètement, c'est.
Il y a les élections, on vous ferme. Voilà, concrètement, c'est ça.
C'est très compliqué en France de faire des choses, et notamment de faire de la rénovation, de la réhabilitation de bâtiments qui ne sont pas prévus à l'origine pour ça. Ce qui fait qu'on a un bâtiment industriel qui date d'une époque assez lointaine. Il y a eu des choses, mais la structure, c'est celle-là.
Et du coup,
nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une commission de sécurité qui est venue en mai. Elle a dit que c'était pas possible, donc on a eu des mesures compensatoires. La mairie nous a aussi épaulé comme partenaire pour pouvoir faire les choses dehors, parce que en mai le temps s'y prête, hein, à Metz on avait un peu de chance. Donc voilà, on a eu des tentes, on a eu les barrières ERAS qu'il fallait pour garantir un petit peu l'événement. Et puis suite à ça, nous on a réalisé pas mal de choses. Donc comme Igor y dit, hein, c'est do it yourself, mais toujours dans les règles de l'art, parce qu'on a une force au 404, c'est justement cette association de gens de divers horizons qui à un moment ont des compétences et ont des métiers qui ils sont compétents dans ce qu'ils font, quoi. Donc c'est pas fait comme le bricoleur du dimanche, quoi, hein. Et donc on a garanti les choses, notamment au niveau des personnes, voilà. Donc l'évacuation, des portes de secours, éclairage, une formation, des copains qui sont SIAP niveau 3 et compagnie, qui ont un petit peu chapeauté tout ça, qui ont pu à un moment faire un plan d'action un petit peu sur ça, une signalétique, ce genre de choses, puis voir un petit peu quels sont les points de risque, de sorte à pouvoir agir au maximum là-dessus. Et en fait l'ensemble des mesures compensatoires qu'on a pu faire nous ont permis de pouvoir continuer un petit peu notre activité.
Mais malheureusement, la convention de sécurité qui est venue n'a pas validé la suite.
La convention de sécurité,
elle
n'est pas revenue.
C'est ça, c'est qu'en fait, on nous a mis des mesures compensatoires, on a réalisé 90%, même si c'est peut-être que c'était pas à la hauteur, ça je remets pas en cause le travail des pompiers, enfin la sécurité des gens, c'est, le but est pas là, nous on veut juste garantir.
Il y a des problèmes structurels sur le bâtiment qui peuvent être faits avec un demi-million d'euros, voilà. En gros, un demi-million d'euros dans un bâtiment qui est pas à nous, où on loue, moi je demanderais qui investit une somme ultra conséquente dans un appartement qui n'est pas à lui ou dans une maison qui n'est pas à lui. Donc du coup on réfléchit sur des choses où vu qu'on est en location, c'est des choses qu'on, si on s'en va, on repart avec. Donc on a fait quand même pas mal d'efforts sur beaucoup de choses, les portes, les issues de secours, une alarme, ce genre de choses. Et puis on avait le projet de se dire le bâtiment tel qu'il est fait, il y a un deuxième hangar, on essaye de voir pour avoir le deuxième hangar d'à côté.
Et puis on avait créé une salle
vraiment dans le deuxième hangar pour séparer les activités, parce que les deux activités étaient compliquées, de faire et de l'atelier et de l'accueil de public pour de l'événementiel. Donc du coup on a travaillé un petit peu là-dessus, mais comme je dis, c'est des problèmes structurels. Après, une commission de sécurité, quand elle donne un avis défavorable, il ne peut être que levé par une seconde commission de sécurité qui donne un avis favorable.
Donc on
a pu rencontrer la mairie, les services de la mairie. Enfin voilà, on a été très bien reçus. On a essayé de trouver des solutions ensemble pour trouver. Après, on est ouvert à plein de choses. Ce bâtiment-là, on l'a trouvé parce que c'est vrai qu'il est en périphérie un petit peu. Donc le 8 rue Périgot, voilà, on a d'un côté le centre culturel turc. De l'autre côté, on a les demandeurs d'asile. Derrière, on a le Formule 1 qui fait à peu près 80% de demandeurs d'asile. Donc on est Lorraine, terre d'accueil, quoi. Donc on y est allé. Le mètre carré, du coup, avec tout ça, vous imaginez que l'immobilier est assez peu cher. Nous, ça nous permettait d'avoir une activité. Voilà, on l'a fait. Il y a un rayonnement. Il y a quand même, sur la première année, on était à pas loin de 3000 adhérents sur une année. La deuxième année, on est monté encore plus fort. On était un peu en dessous des 4000, mais pas loin. Et là, sur la troisième année, depuis septembre, on est à plus de 2000.
Oui.
Plus de 2000 adhérents en l'espace de 5 mois, quasiment 3000.
Et très peu de soirées en plus.
Donc ça veut dire 3000 personnes qui sont venues au moins une fois.
Et puis là où on était situé, ça avait du coup l'avantage de ne pas déranger le voisinage, et puis aussi aux étudiants ou à n'importe qui de pouvoir se déplacer en 10 minutes, 15 minutes à pied du centre-ville. Donc on n'était pas trop loin non plus. Et voilà.
Et là, du coup, vous êtes en recherche d'un nouveau lieu ?
Eh bien, on est ouvert à toute proposition, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est continuer ce qu'on est en train de faire. La culture alternative, on y croit. Les projets, on y croit. On est ouvert à toutes les énergies possibles. Quand je dis toutes les énergies possibles, là, on est sur le campus de la fac. On a accueilli des stagiaires. On a accueilli des stagiaires à la fac.
Des
beaux-arts. On a un mur, parce que nous, on essaye de faire une entité à chaque soirée. Donc, en fait, on mise vraiment sur une scéno. Donc, il y a un mur qui doit faire à peu près, 2,50 m de haut sur à peu près 10 mètres. Et ça, c'est ouvert à n'importe quelle personne qui à un moment produit une soirée et veut mettre une entité, une énergie là-dedans.
Et donc des Beaux-Arts, d'ailleurs, sont souvent très contents d'avoir cet espace-là de liberté pour s'exprimer qu'ils n'auraient pas ailleurs. Quand on leur dit, vous avez un mur, vous faites un peu ce que vous voulez en thème avec la soirée qu'on organise, que ce soit Halloween ou autre chose. Et voilà. Et le truc sur lequel je voulais revenir, sur le fait que ça ait créé une polémique, c'est peut-être aussi justement parce que plein de gens, il y a plus de 3200 signatures sur la pétition, se disent là si le château 404 venait à mourir, qu'est-ce qu'on ferait, où est-ce qu'on irait,
où est-ce qu'on met ces gens-là, quoi.
Mais ça créerait véritablement un gros vide. J'ai envie de dire, le château 404, c'est un peu comme ce que peut représenter la famille, autant pour ceux qui sont dedans que le public qui fréquente ce lieu. On n'a pas l'impression que c'est important sur le moment, et c'est quand ça disparaît.
Moi je reprendrais un discours qui a été prononcé il y a peu de temps par notre cher et aimé président. Je mets la main sur le cœur.
Il n'y a pas de chef au 404.
Non, mais il y a un président quand même.
C'est une association.
C'est pas grave si on a pu Musique Volante, c'est pas grave si on a pu Boom Chaka, c'est pas grave si on a pu La Chaoué, c'est pas grave si on a pu le Château 404, quoi. Mais bien sûr, il nous faut ces lieux-là. Donc oui, en fait, les acteurs culturels qui dynamisent et qui rayonnent et qui ont ce côté, enfin, moi je reprendrais par les copains, parce que je l'entends depuis une dizaine d'années, ce côté militant culturel, c'est-à-dire nous on croit en ce qu'on fait, on croit en le projet, et à un moment la notion de bénévolat, eh ben, on l'accepte parce qu'on a envie de faire vivre les choses, et il y a beaucoup de personnes qui sont professionnelles dans le spectacle qui à un moment acceptent des cachets, je sais pas moi, de 8 ou 10 heures quand leur travail en représente 30 parce qu'ils croient en ce qu'ils font, quoi. Et le côté Château 404, c'est un petit peu cet état d'esprit-là, quoi.
Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que tous ces lieux ferment ? C'est quand même étonnant.
Ben ça correspond peut-être pas à ce qu'on attend de la culture marchandable, tout simplement. Notre culture, elle est peut-être
institutionnalisée, qui est très souvent très lissée.
C'est ça, c'est que nous, on va essayer de produire les gens qui se déplacent. On a été sollicités par des Australiens, partout dans le monde, des groupes qui voulaient venir chez nous, parce que justement, donc, ils veulent s'exprimer, ils veulent un lieu de culture pour 4, ça.
4 à 5 mails par jour de demandes de concert.
Mais
la boîte de prog.
Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, c'est des groupes, ils sont pas bankable, comme ils disent ces autres gens. C'est des groupes, c'est pas vendable tout de suite. Ça se trouve, dans 30 ans, on dira c'était le putain de précurseur de ce style de musique ou de ce mouvement. Mais à l'heure actuelle, c'est pas vendable. Il y a combien de peintres qui arrivaient pas à vendre ses propres tableaux à l'époque ? Nous, là, on donne une vitrine à ces gens-là.
C'est ce qu'il y a d'intéressant, justement, au Château 404, c'est que dans certains lieux, en fait, on va acheter une place de concert parce qu'on veut aller voir tel ou tel artiste. Et finalement, chez nous, c'est plutôt des gens qui se déplacent en se disant « Tiens, les soirées Château 404, c'est toujours intéressant, il y a quelque chose. » Et qui connaissent pas forcément la programmation, les têtes d'affiche, etc., ce qu'il y a à proposer, et qui découvrent quelque chose, que ce soit en scénographie ou en concert, ou voilà.
On leur propose... parce qu'on rigole bien au Château 404.
Mais bien sûr, parce qu'on a parlé aussi beaucoup d'événementiels, mais il y a vraiment tout ce qui est scénographie, là, des artistes qui sont là à bosser et faire un décor incroyable, et c'est un tout, en fait. C'est vraiment, il y a une partie de spectacle, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas fait comme ça ailleurs, et il y a des gens qui sont très demandeurs de ça.
Ah bah justement, vous parliez de vitrine, moi je vous propose peut-être de mettre en avant certains des artistes ou d'autres projets qui ont pu vous marquer dans votre parcours de Château 404.
On peut parler des soirées. Après, les artistes qui sont au sein de l'asso, on ne fait pas ça, en fait, pour se mettre en avant. Le but n'est vraiment pas là, et c'est vrai qu'on nous prête cette idée-là des fois.
Il y en a qui sont venus une fois, il y en a qui reviennent à chaque fois, mais ça ne fait pas plus d'enfants. Voilà.
C'est ça. Qui est-ce qui serait plus...
Ce qu'il faut dire, c'est que au Château 404, on fait pas mal de diffusion, et après on essaye d'avoir un petit peu notre soirée chien de la classe, voilà. On la produit à peu près une fois tous les trimestres, voilà, où là on met des gros moyens, et il y a une grosse équipe de l'ensemble des bénévoles, tout le monde met la main à la pâte, et on fait un petit peu un thème de soirée qui soit cohérent, et là du coup on a beaucoup d'énergie, et on a pu faire un petit peu des spéciales comme Halloween. Alors Halloween, la Manche t'es mort, c'est une soirée un peu spéciale parce que si vous voulez, la Manche t'es mort de l'année 2017, ça a été la première grosse soirée au château où il y en a eu un nombre de personnes assez conséquent. On parle de 300-350 personnes, voire 400, dans un lieu où, sur Metz, se passait à peu près une dizaine de soirées. Donc on a vu débarquer même des organisateurs des différentes soirées à la fin au Château 404. C'était vraiment la fête, on a vraiment bien rigolé. Donc des animations en tout genre, hein, parce qu'il n'y a pas que du concert, il y a aussi beaucoup de rigolades. Donc voilà, on a créé des petites choses. Il y a eu la chapelle 404, il y a eu des soirées barlou avec des concours de bras de fer,
place une petite pour le catering aussi. Des fois, on fait la vente aussi de bouffe ou de choses comme ça, et on essaye aussi de s'éclater là-dessus.
Il y a dans le thème, toujours, voilà.
Toujours dans le thème. Voilà. Et d'ailleurs, faudra qu'on parle de la grande escroquerie aussi.
Ouais, du coup, dans les soirées là, ouais, voilà, il y a des spéciales. Et moi, une qui m'a marqué vraiment, c'était la soirée Sex Miam. Parce que voilà, on voulait faire vraiment une soirée un peu cabaret autour de ça. Et on a construit quelque chose qui était vraiment pas mal. Et moi, j'en ai vraiment une très très bonne soirée.
Je pense que le public aussi, on a gardé un bon souvenir, ça revient souvent.
La Sex Miam, ça c'est revenu. Parce que, donc, on avait une compagnie de théâtre théâtre parisienne, voilà, qui est venue faire un spectacle donc en début de soirée, et spectacle qui s'est vendu en pré-vente, hein, qui était complet, voilà, sur 100 places. Et puis après, on a fait différents DJ et autres concerts. Il y a eu du Shibari en performance, donc voilà. Et puis il y a eu donc dans une petite caravane à côté de l'effeuillage de marionnettes. On avait des copains qui nous ont animé un petit peu ce qu'on appelait le pip show. Donc on avait un petit fil rouge. Enfin voilà, c'était un petit peu le côté voyeur du cabaret comme on peut connaître. À côté de ça, on avait invité, enfin voilà, les copains de la salle de shoot. Donc la salle de shoot, c'est des photos. Ça s'appelle salle de shoot pour le shoot photo, hein, qui ont pu nous animer les choses bien comme il faut. Donc voilà. Et puis et on avait vraiment toute cette entité là, ce qui faisait que les gens arrivaient. Il n'y avait pas qu'un concert. Il y avait différentes choses. Et puis il y avait de la performance aussi, entre donc de la performance graphique et puis sonore. Donc voilà, on était vraiment sur une grosse soirée, et voilà, ça moi, pour moi, c'est celle qui a pu me marquer dans la première. Et là on s'est dit, on tient un truc, il y a l'esprit Château 404, c'est, on a voulu faire notre soirée cabaret, on l'a préparé à l'avance, on a eu une grosse énergie, on a eu au final une trentaine de personnes là-dessus, ça a marché, tout le monde était super satisfait, on a vraiment bien rigolé, donc on va continuer à rigoler, et puis on se dit, voilà, on organise tous les trois mois, parce qu'il y a tout le reste de la prog à suivre, quoi.
Et malgré ce qui s'est passé, vous allez continuer à essayer d'organiser ce genre d'événement?
De toute façon, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Hein,
mais on a une prog en cours, hein, on a une prog en cours, donc après, on est en lien avec les services de la mairie pour justement
pour voir, aussi,
ouais, voir ce qui est possible.
Est-ce que dans ces lieux-là où on va se déplacer, on va aussi pouvoir recréer ce que nous on faisait un peu chez nous?
C'est bien ça le problème, c'est que je pense que la délocaliser là, notre programmation, on le fait avant tout pour les artistes qu'on avait programmés, parce que c'est un peu abusé d'annuler une date de concert, et nous voilà, c'est pas notre état d'esprit, donc on fait tout ce qui est possible pour maintenir les soirées qu'on avait prévues. Le problème, c'est que ça se passe dans des lieux qui ne sont pas à nous, donc ça pose un certain problème, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre le même investissement. Alors déjà, des fois, on sait qu'on a la salle deux jours avant. C'est super, on arrive quand même à faire la soirée.
Ouais.
Là, par exemple, pour Blida, c'était super. Mais faut savoir qu'il a fallu tout gérer en deux jours, un jour.
Deux jours.
Ça nous empêche pas de le faire. On a une vraie force vive parce qu'il y a un vrai besoin. Je reviendrai encore là-dessus. Et il n'y a rien de magique, en fait. On se retire tous les doigts du cul. On se bouge un peu pour la culture et pour se sentir un peu plus sain d'esprit quand on rentre se coucher. Et voilà.
Voilà. Après, nous, ce qu'on demande, c'est de l'accompagnement, parce que toute cette énergie-là, on l'a fait de façon bénévole. Voilà. Délocaliser le château, on l'a fait. On l'a fait plusieurs fois. On l'a fait là, à Blida, parce qu'on a eu l'Anti-Saint-Valentin, donc, qui est un franc succès, hein, franchement. Mmh. Le monde a répondu, sachant que deux jours avant, on n'avait pas encore pu poster, parce qu'on ne fait pas de com autre qu'Internet, quoi. Et du coup, deux jours avant, on a dit, bon, bah voilà, ça se passera à Blida, ça y est, c'est acté. Mais on organise la Grande Escroquerie. Donc la Grande Escroquerie, c'était la troisième édition cette année. Donc c'est un marché de Noël, c'est un salon des producteurs et artisans locaux, voilà. Et qui propose des choses qu'on ne voit pas forcément sur le marché de Noël classique. Donc moi, je me rappelle entre les copains qui font de l'art graphique, d'un petit peu tout bord, des bijoux en béton. Enfin voilà, qui portent des bijoux en béton. Je ne suis pas sûr que ça se trouve.
Peut-être que
dans les différents centres commerciaux. Voilà.
Dans 30 ans, on trouvera ça à Super.
Exactement, c'était ça. Donc il y a un côté gastronomie avec l'ensemble des brasseurs et producteurs artisanaux locaux. Et puis à côté de ça, nous on aime bien faire la fête. Donc on a sorti une scène extérieure. Voilà, tout ça c'est en partenariat avec la Cité Musicale qu'on remercie beaucoup. Et parce que, enfin voilà, on a Saint-Pierre-aux-Nonains, c'est quand même un lieu qui est cool. Et puis nous, on s'est dit, voilà, à Saint-Pierre-aux-Nonains, il se passe quoi vraiment à Saint-Pierre-aux-Nonains? Et ben si on mettait des concerts.
Moi je mets quand même une petite précision. Je pense que c'est aussi un peu par défaut. À un moment donné,
je t'ai vu tiquer quand il a parlé de la Cité Musicale.
Oui, j'ai rien contre la Cité Musicale. Le problème n'est pas là. Le problème est beaucoup plus haut. Le souci, c'est qu'on en fait, à partir du moment où ça a généré beaucoup de gens, là d'un coup, les gens se sont dit ça devient un kebab, en fait, tout simplement. Donc on n'est plus invisible. Et puis là, Ah ben on peut vous prêter tel lieu, on peut vous prêter tel lieu. Là on avait un projet pour faire quelque chose encore cet été, la mairie nous passe un super endroit.
Ça prête pas vraiment, hein, c'est moyenne en finances. Donc après les finances elles peuvent être réduites aussi parce que voilà, c'est génial ce que vous faites. La grande escroquerie la dernière, à peu près 5000 personnes au comptage parce que c'est compliqué.
Mais voilà, mais que c'est une, ce soit humain, ouais, ou financier,
c'est une équipe de 30 bénévoles qui tourne avec voilà et nous on va faire quoi? On va faire un débit de boisson, on va faire
le
ghetto resto là qui est
le ghetto resto,
voilà, avec à peu près 3, 4, 5 plats différents, ouais, en plus des crêpes et des gaufres quoi.
On avait fait une tartiflette végétarienne et une tartiflette normale, un rougail, et puis on était restés tous à peu près 72 heures sous cette tente. Et c'était à la fois super dur, il y a des gens, enfin voilà, on craque un peu tout, c'est compliqué.
Parce que c'est une entrée gratuite.
Et c'était un moment de bonheur incroyable. Et c'était un moment
de toute façon,
le
Château 404, c'est des moments de bonheur incroyables.
Moi, je pense à la grande escroquerie, c'est des souvenirs fous sous cette tente, justement.
Ben, sur ces beaux souvenirs, je pense que c'est la fin de notre temps. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans nos studios.
Merci à toi.
Et puis de partager votre passion pour la culture alternative. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
Et bah, qu'il y ait une place pour les tiers lieux, voilà, à Metz.
Et vraiment, en France, et partout
en France,
dans le monde,
en règle générale, voilà. Et puis qu'à un moment, on soit pas dans un projet culturel qu'il ne soit réservé que pour certains, qu'il soit un petit peu pour tous. Parce que le Château 404, c'est là où on n'avait pas notre place. Dans le paysage culturel, on l'a créé et on voit bien que ça marche dans le sens où on a une pétition qui tourne depuis quelques jours et on a beaucoup de
3000.
Voilà, on a un Hello Asso là qui est sorti
si vous voulez financer aider au financement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé
aider,
mais on a lancé du crowdfunding.
Le Hello Asso est sorti
il est sorti hier
voilà, donc sur du soutien et on a besoin de soutien et toute proposition est bonne à prendre. L'idée, c'est de continuer ce projet-là, quoi. Donc voilà.
Et on lâchera rien.
Non.
Ouais.
Et ben,
on continuera à rigoler.
Voilà, bah vous lâcherez rien. Et puis, moi, je vous remercie. Et puis, merci de nous avoir écoutés au 99.6 FM à Nancy, au 106.1 FM à Metz. Bonne soirée sur Radio Campus Lorraine.
À bientôt.